Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Troisième dimanche de l'année liturgique, c'est dimanche de la parole des dieux. À l'occasion, le pape a présidé la messe dans la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle il a conféré le ministère du lectorat à 40 laïcs venus de différentes nations. Dans son homélie, le Saint-Père a mis l'accent sur l'accomplissement des promesses des dieux envers les hommes dans l'aujourd'hui, nous invitant à nous émerveiller et ouvrir nos cœurs à la parole des dieux, car, dit-il, c'est lui, le Christ, qui parle tandis qu'on lit les Saintes Écritures. Le Saint-Père, qui a aussi présidé la prière mariale de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique, devant des milliers de pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église, avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira au Nigeria, en République démocratique du Congo. Nous conclurons cette édition en écoutant la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du Synode sur la synodalité. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
Le pape a présidé la messe dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion du dimanche de la parole des dieux. Au cours de cette célébration, il a conféré le ministère du lectorat à 40 laïcs venus des différentes nations. Dans son homélie, le Saint-Père a mis l'accent sur l'accomplissement des paroles des dieux envers les hommes dans l'aujourd'hui, nous invitant à nous émerveiller et à ouvrir nos cœurs à la parole des dieux, car, dit-il, c'est lui, le Christ, qui parle tandis qu'on lit les Saintes Écritures. On écoute le Saint-Père.
La parole di Dio è viva, attraverso i secoli cammina con noi.
Vivante à travers des siècles, la parole de Dieu chemine avec nous et par la puissance de l'Esprit, elle agit dans l'histoire, a dit le pape. Jésus est la parole vivante et c'est lui qui parle, a souligné François, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. La Bible fait mémoire du Christ et de son œuvre et l'Esprit l'actualise dans notre vie. L'évêque de Rome a expliqué que lorsque nous lisons les Écritures, nous ne recevons pas seulement des informations sur Dieu, mais nous accueillons plutôt l'Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit et fait.
Ci sportiamo con ardore al lieto annuncio di Cristo. Il Signore infatti non ci ha parlato come a muti ascoltatori, ma come a testimoni.
Répondons avec ardeur à la bonne nouvelle du Christ, car le Seigneur ne nous a pas parlé comme à des auditeurs muets, mais comme à des témoins, nous appelant à évangéliser en tout temps et en tout lieu, a affirmé François. Il a ainsi invité les 40 nouveaux lecteurs qu'il a institués au cours de la messe au ministère du lectorat à porter l'annonce missionnaire de l'évangile du salut à ceux qui ne la connaissent pas encore.
Et au cours de la prière mariale de l'Angélus, le Saint-Père a invité les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, notre Sauveur dans l'aujourd'hui. Un bon pédagogue, François a demandé à chacun de se poser les questions suivantes. Sentons-nous l'autorité unique avec laquelle Jésus de Nazareth parle? Reconnaissons-nous qu'il est porteur d'une annonce de salut que personne d'autre ne peut nous donner? Et moi, ai-je besoin de ce salut? Est-ce que je me sens moi aussi d'une certaine manière pauvre, emprisonné, aveugle, opprimé? Enfin, le Saint-Père a invité les fidèles à tourner avec confiance vers Marie, Mère des dieux et notre Mère, pour qu'elle nous aide à reconnaître le visage du Fils des dieux et qu'en cette année jubilaire, nous puissions redécouvrir Jésus avec un nouvel émerveillement et ressentir dans notre cœur une joyeuse certitude. Et comme nous l'avons annoncé dans nos éditions précédentes, dans la soirée de samedi, François a présidé les secondes vêpres de la fête de la conversion de Saint-Paul dans la basilique Saint-Paul hors les murs. Dans son homélie, l'évêque de Rome est revenu sur la rencontre entre Jésus et Marthe. Selon lui, celle-ci nous enseigne l'espérance jaillissant dans la vallée des larmes, des moments de désolation les plus profonds. Le Saint-Père a aussi lancé un appel à une communication croissante entre les chrétiens en cette année de coïncidence entre la date de Pâques, identique à tous les calendriers, les jubilés et les 1700 ans du premier concile de Nicée. Le dimanche, la parole a coïncidé avec la fin du jubilé des communicateurs. Après avoir été reçu en audience samedi, les 9000 journalistes et professionnels de la communication venus célébrer cet événement ont aussi pris part à la célébration eucharistique présidée par le pape dans la matinée de dimanche. Au nombre des participants, Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo en République démocratique du Congo, qui nous livre ses impressions.
Venu un pèlerin de l'espérance, le jubilé est un temps de grâce. Ma joie, c'est d'abord la rencontre avec d'autres communicateurs de différents pays. Et puis, nous avons eu des conférences sur la communication, c'était un rappel, sur le modèle de la communication que nous devons tenir. Une communication attentive, une communication pleine de tendresse, communication fraternelle. C'est avec beaucoup de joie que nous célébrons ce jubilé. D'ailleurs, la rencontre continue avec tous les communicateurs venus du monde entier. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants envers le Saint-Père, le pape François, qui est venu nous parler et nous saluer.
Écoutons aussi Gilles Yao, journaliste ivoirien qui a lui aussi pris part à cet événement.
Mes impressions sont très très bonnes. On a senti vraiment que l'Esprit-Saint était parmi nous. Faire face à nos responsabilités en tant que journaliste, en tant que communicateur, en tant que chrétien, dans le sens d'être engagé à construire, à bâtir, à faire notre travail bien pour contribuer à la paix du monde, pour contribuer à la paix des peuples, mais aussi on doit être plus responsable, on doit faire vivre l'Église par notre profession. L'appel qui nous engage, nous communicateurs catholiques, à pouvoir faire notre travail avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'éthique. Donc, sur la base de l'Évangile, sur la base de la doctrine sociale de l'Église.
Place à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Christian Losambe.
Débutons ce tour d'horizon sur la vie de l'Église en Afrique en nous rendant au Zimbabwe. En réaction à l'intention du président Emmerson Dambudzo Mnangagwa de prolonger son mandat de 2 années supplémentaires, soit jusqu'en 2030, les responsables de l'Église dans ce pays ont souligné, dans leur déclaration du 21 janvier dernier, leur engagement à promouvoir les valeurs démocratiques, le constitutionnalisme et l'état de droit. Les prélats ont exhorté le président du Zimbabwe à soutenir une transition pacifique du pouvoir en 2028 par le biais d'élections libres, équitables et crédibles. Ils ont également exhorté le peuple de Dieu dans la nation d'Afrique australe à se prononcer en faveur de l'appel à faire passer le Zimbabwe en premier et à respecter la constitution du pays. La Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a ouvert mardi 21 janvier les travaux de sa 126e session ordinaire dans le diocèse de Bontoukou au nord-est du pays. La messe d'ouverture était célébrée en l'église Notre-Dame du Mont-Carmel en présence de plusieurs autorités de la région, des prêtres religieux, religieuses et fidèles. En cette année électorale dans le pays, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, président de la Conférence épiscopale catholique de Côte d'Ivoire, s'est focalisé sur l'angoisse qui prévaut dans le pays à 10 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire.
Face à l'escalade des injures grossières, des menaces, de la violence, des discours haineux et des propos diffamatoires très médiatisés, il y a de quoi être inquiet.
Et en conclusion de cette page, l'ambassade du Burkina Faso près le Saint-Siège, en collaboration avec la Fraternité ecclésiastique des Burkinabés de Rome, a organisé le 18 janvier une messe dans la basilique romaine Saint-Eustache pour la paix et la sécurité dans ce pays. Dans son homélie, le prêtre jésuite burkinabé Paul Béré a exhorté ses compatriotes à une véritable conversion des cœurs pour que soit retrouvée cette paix et la stabilité perdue depuis plus d'une décennie.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 27 soldats nigériens ont été tués dans le nord-ouest du pays dans un attentat suicide djihadiste, ont indiqué les sources militaires, ce qui constitue dans ce pays l'un des attentats suicides visant les hommes en uniforme le plus meurtrier des dernières années. Vendredi, l'armée a lancé une offensive terrestre contre un bastion de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans le triangle de Tombouctou, une zone à cheval entre les États de Borno et de Yobe dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a alors précipité son véhicule chargé d'explosifs dissimulé dans un épais feuillage sur un convoi de troupes qui avançait, ce qui a valu la mort à 27 soldats et des graves blessures à plusieurs autres. Des combats intenses ont repris dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le groupe anti-gouvernemental du M23 aux portes de la grande ville de Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion en urgence dans la journée après l'intensification des combats faisant craindre un embrasement régional. Après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola, le M23 renforcé par 3 000 à 4 000 soldats rwandais selon l'ONU ont rapidement gagné du terrain ces dernières semaines. Ils encerclent désormais la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, qui compte 1 million d'habitants et autant de déplacés. Le père jésuite Martin Bahati poursuit la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité, rapport publié le 28 octobre 2023.
Mes chers sœurs et frères, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Nous explorons la troisième et dernière partie du rapport qui s'intitule « Tisser des liens, construire une communauté ». Nous lisons aujourd'hui les deux derniers points de convergence sur le discernement ecclésial et questions ouvertes. Selon les participants au synode, si nous utilisons la doctrine avec dureté et jugement, nous trahissons l'Évangile. Si nous pratiquons la miséricorde à bon marché, nous ne transmettons pas l'amour de Dieu. L'unité de la vérité et de l'amour implique d'assumer les difficultés de l'autre jusqu'à les faire siennes, comme c'est le cas entre vrais frères et sœurs. Cette unité ne peut être atteinte qu'en suivant patiemment le chemin de l'accompagnement. Par ailleurs, les pères synodaux affirment que certains sujets, comme ceux qui ont trait à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, à la fin de la vie, aux situations matrimoniales difficiles et aux questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, sont controversés non seulement dans la société, mais également dans l'Église, parce qu'il soulève de nouvelles questions. Il est donc important de prendre le temps nécessaire pour une bonne réflexion et y investir toute énergie sans céder à des jugements simplificateurs qui blessent les personnes et le corps de l'Église. Après l'analyse de ces points de convergence, les participants au synode proposent 3 domaines d'approfondissement. Le premier est la nécessité de poursuivre la réflexion ecclésiale sur l'imbrication originelle de l'amour et de la vérité dont Jésus a été le témoin en vue d'une praxis ecclésiale qui respecte son inspiration. Le deuxième domaine est d'encourager les experts dans les différents domaines de connaissances à développer une sagesse spirituelle qui permette à leur expertise de devenir un véritable service ecclésial. La synodalité dans ces domaines se traduit par la volonté de réfléchir ensemble au service de la mission, dans la diversité des approches, mais dans l'harmonie des intentions. Le troisième champ, enfin, propose d'identifier les conditions favorisant une recherche théologique et culturelle qui part de l'expérience quotidienne du saint peuple de Dieu et se met à son service.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguin-Dekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Afrophonia.
Africa in sintonia.
News, fatti, commenti.
Todo o céu se alegra.